Bonjour à tous. Bienvenue dans notre émission mensuelle sur les jardins. Nous sommes enchantés de continuer avec nos auditeurs cette découverte des jardins normands. Et aujourd'hui, dans nos studios, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Bénédicte Dution. Bonjour Madame Dution.
Bonjour Madame Riss.
C'est un plaisir de vous accueillir. Vous êtes venue de loin pour nous rencontrer à Caen?
Oui, de Rouen. Maintenant, c'est un trajet qui m'est habituel puisque avec la réunification des deux ex-Haute et Basse-Normandie, Rouen et Caen travaillent ensemble très continuellement.
Oui. Alors, je voudrais d'abord vous présenter et commencer le dialogue avec vous justement autour du thème de la Normandie et de ses jardins. Vous êtes venu nous voir dans le cadre de notre partenariat avec l'Institut européen des parcs et jardins et vous travaillez vous-même à l'inventaire, au service de l'inventaire et du patrimoine culturel de la région Normandie.
Oui, c'est tout à fait cela.
C'est tout à fait cela. Alors j'ai noté également que vous êtes chercheur, c'est d'abord votre identité.
Oui, c'est vrai que depuis la fusion des régions, mes missions ont évolué et je me consacre aujourd'hui donc au métier de chercheur dans le cadre de cette mission très noble de l'inventaire général du patrimoine culturel, une mission fondée par André Malraux en 1964 qui depuis la fin des années 2000 a été transférée aux régions. Et les trois missions principales de l'inventaire, c'est recenser, étudier, faire connaître. Et donc, je débute, moi, une opération justement d'inventaire portant sur les jardins publics de Normandie, donc des cinq départements, pour une période clé dans ce domaine, c'est-à-dire les 19e et 20e siècles.
Travail tout à fait remarquable, mais je note aussi que vous êtes membre du groupe de travail régional du label Jardin Remarquable.
Oui, cela est aussi en fait récent, puisque toujours à la faveur de la réunification de la Normandie, une nouvelle composition de ce groupe de travail a dû être mis en place par la DRAC et j'ai l'honneur de faire partie de ce programme de travail puisque on va avoir effectivement de nombreux dossiers à analyser. Mais ce n'est pas, je soulignerai le fait que ce groupe de travail ne travaille pas en chambre, loin de là, puisque pour toute demande de label, une visite s'impose, hein, puisque le jardin, effectivement, c'est aussi un objet de terrain. Hein. Vous, auditeurs, amateurs de jardin, vous le savez bien. Qu'un jardin, certes, on peut le regarder à travers des photographies ou à travers une description, mais rien ne vaut d'y déambuler hein, ou de s'y promener.
Et quelquefois d'avoir de la terre sous les ongles, ça arrive.
Oui, tout à fait.
Je voudrais justement pour nos auditeurs que vous précisiez cette notion un peu étonnante d'un patrimoine des jardins, parce que c'est un patrimoine un peu immatériel, c'est le mot, patrimoine immatériel. Immatériel.
Oui, alors le jardin a cette particularité, et puis c'est ce qui en fait tout son intérêt, c'est que c'est un objet, je dirais, pluridisciplinaire, dans le sens où on peut l'approcher à la fois de manière philosophique, par exemple, hein, ça pose la question du statut de l'homme sur Terre, hein, je dirais qu'on connaît tous le mythe ou en tout cas l'idée du jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui aussi les enjeux environnementaux. Et dans le domaine du patrimoine, il a été reconnu en tant que tel de manière officielle par la charte de Florence, hein, qui aujourd'hui fait l'objet d'une réactualisation. Mais je veux dire, c'est un objet patrimonial dans le sens où il a fait intervenir des grands architectes, des grands paysagistes, des jardiniers, hein, et il met en œuvre des relations étroites avec l'histoire de la peinture, l'histoire des techniques, mais également l'histoire de la sociologie. C'est aussi la manière, un jardin, c'est aussi la manière dont on le regarde, dont on en parle, hein, d'où ce côté aussi, ce lien avec l'immatériel, hein, puisque c'est à la fois effectivement un terrain, on peut pas, donc c'est ce qu'il y a de plus matériel, la terre, mais c'est aussi fait de toutes les représentations, hein, donc d'où cette dimension immatérielle qui l'ennoblit, hein, et qui le fait vraiment patrimoine au sens entier du terme.
Donc pour vous, comme pour moi, je pense, la création, l'entretien des jardins sont un art.
Ah, tout à fait, hein. Et ça, il faut reconnaître que le jardinier a un rôle essentiel aussi dans un jardin. On parle souvent des paysagistes, mais il ne faut pas oublier les jardiniers qui, effectivement, ont à la fois un art d'écoute des saisons, du végétal, mais qu'ils doivent replacer cette technique dans la composition d'ensemble du jardin, dans son harmonie, dans des modes aussi d'approche du jardin, ou aussi on peut dire que le jardinier est peut-être aussi proche du peintre dans la manière dont il sait manier les couleurs, hein. Il y a toute la palette du jardinier, d'où aussi, et ça en Normandie nous sommes bien placés pour le savoir, cette familiarité entre impressionnisme et jardin, hein. Pensons au fameux jardin de Claude Monet, tant vanté à juste titre par ses contemporains et par aussi aujourd'hui, hein, qui reste un grand lieu de visite.
Et vous avez eu l'occasion de travailler avec ces jardins ou sur les documents anciens?
Alors oui, c'est ça aussi qui fait tout l'intérêt de mes missions scientifiques actuelles, c'est que pour étudier les jardins, il faut revenir aux sources, hein, aux sources, et il peut y avoir donc notamment des sources en archives. Et alors la pépite peut être un plan dessiné par le concepteur du jardin. Et notamment quand ça peut être aussi un plan aquarellé, ça peut devenir magnifique, et la pièce d'archive peut devenir en elle-même une œuvre d'art. Hein, ça, c'est le cas, voilà, de très beaux plans. Également, on peut parler des traités, hein, des traités de jardinage ou des traités de composition. Alors cette année, ça ne coïncide pas avec la période que je traite actuellement, mais on peut quand même souligner qu'en 2019, c'est une année où l'on célèbre aussi le 500e anniversaire du décès du premier agronome français, Olivier de Serres, qui a rédigé le célèbre traité dans sa propriété ardéchoise du Pradel, hein, et son traité de l'agriculture et ménage des champs a connu de nombreuses rééditions, dont certaines sont accompagnées de bois gravés très très délicieux à regarder. Et ça, la question des traités de jardinage, en fait, est un objet d'étude en soi, puisque ça traverse tous les siècles de l'histoire de l'art et des jardins, hein, et ce sont souvent des recueils fabuleux alliant texte et représentation et plan.
Mais dans l'art du vivant, des jardins vivants aujourd'hui, est-ce que vous avez été confronté à des jardins qui seraient en danger?
Ah, alors ça aussi, c'est la question effectivement essentielle de l'entretien et aussi tous les questionnements liés à la restauration. Hein, j'ai évoqué tout à l'heure la charte de Florence parce que, voilà, qu'est-ce que restaurer un jardin? Est-ce qu'on peut d'ailleurs le restaurer comme un bâtiment? Qu'est-ce que l'état initial d'un jardin? C'est déjà rien qu'effectivement... Les essences même végétales d'hier sont-elles celles qu'on peut se procurer aujourd'hui? et des jardins en danger, effectivement, il y a aujourd'hui des propriétaires privés qui peuvent avoir du mal à assumer l'entretien, mais aussi des jardins publics. Il y a des domaines publics qui, par exemple aussi, non seulement le végétal peut être en danger, on peut aujourd'hui parler de la question du buis attaqué par cette fameuse spirale. Alors même s'il y a des moyens de remédier, de modifier les plantations, mais il y a aussi tout ce qui va avec la statuaire qui souvent aussi souffre des intempéries ou de tout du système hydraulique, parce qu'un jardin cache souvent aussi l'art des fontainiers, et ça nécessite un entretien au quotidien, et certaines grandes aussi fontaines peuvent être effectivement victime du temps qui passe. Hein. Tout ça aussi donne vraiment la dimension profonde et importante de l'entretien des jardins.
Peut-être que c'est devant tous ces risques que les uns les autres on peut s'engager. Et je crois qu'ici, en Normandie, l'Institut européen des jardins et du paysage est un lieu de réflexion pour des intellectuels, pour des spécialistes, mais aussi pour des jardiniers. Vous appartenez à cet institut. Vous siégez au comité scientifique, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Donc j'ai rejoint le comité scientifique à la faveur justement aussi de la fusion de la Normandie, ce qui m'a permis de rejoindre ce groupe de travail constitué de spécialistes, paysagistes, historiens des jardins de l'Europe. Alors ça, c'est, je veux dire, c'est un atout, puisque quand on parle de l'histoire de l'art des jardins, on ne peut pas nier la dimension européenne. Pensons aux influences des jardins italiens de la Renaissance, puis effectivement en France, ces échanges avec l'Angleterre, autant de le nôtre, aussi la France comme foyer et de création de l'art des jardins. Et donc le comité scientifique a pour mission de donner des grandes orientations, mais l'Institut aussi, par le cycle des conférences qu'il donne annuellement et une fois par mois, est ouvert à tous. Et puis encore plus récemment, vient d'être créée une association des amis de l'Institut pour apporter aussi un soutien plus matériel, plus financier, puisque pour fonctionner dans ce très beau site du château de Bénouville, l'Institut qui est soutenu par les pouvoirs publics, la DRAC, la région, le département du Calvados, voudrait aussi mailler le territoire et faire participer aussi le plus de monde à ces activités qui sont aujourd'hui la confluence à la fois effectivement de notre histoire patrimoniale, mais aussi des enjeux contemporains, parce que le jardin n'est pas simplement une relique du passé, ou dans le jardin ne réside pas simplement un intérêt historique, artistique, mais aussi il nous fait réfléchir à la survie même de la planète, puisque le jardin, souvent, ce que l'on dit, c'est dans un microcosme le macrocosme. Et je crois qu'il suscite en chacun de nous des questions essentielles, des questions fondamentales. Et effectivement, il pose la question de la place de l'homme sur notre terre.
Quelle belle conclusion pour notre émission. Juste avant de terminer, vous avez une invitation à nous faire de la part de l'Institut.
Oui, de la part de l'Institut et de la région Normandie, puisque nous organisons du 9 au 12 mai prochain le colloque Jardin et littérature, avec une première journée de visite qui va nous permettre de découvrir les jardins de la maison de Maupassant à Étretat, la Guillette, puis les jardins d'André-Gide à Cuverville, et puis deux journées d'intervention, l'une à l'abbaye aux Dames, l'autre à la bibliothèque Alexis de Tocqueville à Caen, et le colloque se terminera par une conférence le dimanche après-midi à la bibliothèque par la personne responsable des jardins des Tuileries. Donc je vous invite, si vous souhaitez vous inscrire et nous rejoindre, ce que j'espère vivement, parce que le programme s'annonce passionnant, hein, puisque on t'a accepté de participer à ce colloque des experts du monde entier. Vous pouvez prendre contact donc avec l'Institut européen des jardins et paysages. Les deux permanentes vous donneront tous les conseils pour vous inscrire. Donc je souhaite vous revoir prochainement dans le cadre de ce colloque qui, comme je l'ai dit, s'annonce passionnant.
Alors chers auditeurs, avec le podcast de cette émission, vous aurez le lien et vous aurez la possibilité de peut-être de venir à ce colloque. Il y a encore un tout petit peu de place, d'après ce qu'on m'a dit ce matin. Merci Madame Dution d'être venue avec nous et je vous souhaite un bon retour vers Rouen.